santé se récria. Quand elle la voyait si attachée au docteur, elle souhaitait souvent un mariage qui l'en détacherait, qui laisserait son fils isolé dans un intérieur détruit, où elle-même deviendrait toute puissante, maîtresse des choses. Aussi l'appela-t-elle en témoignage. N'était-ce pas vrai qu'une femme devait se marier? Que cela était contre nature de rester vieille fille? Et, gravement, il l'approuvait, sans quitter Clotilde des yeux. « Oui, oui, il faut se marier. Elle est trop raisonnable, elle se mariera. »« Bah !» interrompit Maxime. « Aura-t-elle vraiment raison? Pour être malheureuse, peut-être, il y a tant de mauvais ménages. » Et se décida. « Tu ne sais pas ce que tu devrais faire. Eh bien, tu devrais venir à Paris vivre avec moi. » J'ai réfléchi. Cela m'effraie un peu de prendre la charge d'un enfant dans mon état de santé. Ne suis-je pas un enfant moi-même, un malade qui a besoin de soins? Tu me soignerais? Tu serais là si je venais à perdre décidément les jambes? » Sa voix s'était brisée dans un attendrissement sur lui-même. Il se voyait infirme, il la voyait à son chevet, en sœur de charité. Et si elle consentait à rester fille, il lui laisserait volontiers sa fortune pour que son père ne l'eût pas. La terreur qu'il avait de la solitude, le besoin où il serait peut-être bientôt de prendre une garde malade, le rendait très touchant. « Ce serait bien gentil de ta part, et tu n'aurais pas à t'en repentir. » Mais Martine, qui servait le rôti, s'était arrêtée de saisissement. Et la proposition autour de la table causait la même surprise. Félicité, la première, approuva, en sentant que ce départ aiderait ses projets. Elle regardait Clotilde, muette encore et comme étourdie, tandis que le docteur Pascal, très pâle, attendait. « Oh, mon frère !» balbutia la jeune fille, sans trouver d'abord autre chose. Alors la grand-mère intervint. « C'est tout ce que tu dis? Mais c'est très bien ce que ton frère te propose. S'il craint de prendre Charles maintenant, tu peux toujours y aller, toi. Et plus tard, tu feras venir le petit. Voyons, voyons, ça s'arrange parfaitement. Ton frère s'adresse à ton cœur. Pascal, n'est-ce pas qu'elle lui doit une bonne réponse ?» Le docteur, d'un effort, était redevenu maître de lui. On sentait pourtant le grand froid qu'il avait glacé. Il parla avec lenteur. « Je vous répète que Clotilde est très raisonnable et que, si elle doit accepter, elle acceptera. » Dans son bouleversement, la jeune fille eut une révolte. « Maître, veux-tu donc me renvoyer ? Certainement, je remercie Maxime. Mais tout quitter, mon Dieu, quitter tout ce qui m'aime, tout ce que j'ai aimé jusqu'ici. » Elle avait eu un geste éperdu, désignant les êtres et les choses, embrassant la souleillade entière. Et, reprit Pascal en la regardant, si cependant Maxime avait besoin de toi? Ses yeux se mouillèrent. Elle demeura un instant frémissante, car elle seule avait compris. La vision cruelle, de nouveau, s'était évoquée. Maxime, infirme, traîné dans une petite voiture par un domestique, comme le voisin qu'elle rencontrait. Mais sa passion protestait contre son attendrissement. Est-ce qu'elle avait un devoir à l'égard d'un frère qui, pendant 15 ans, lui était resté étranger? Est-ce que son devoir n'était pas où était son cœur? « Écoute, Maxime, » finit-elle par dire, « laisse-moi réfléchir, moi aussi, je verrai. Sois certain que je te suis très reconnaissante, et si un jour tu avais réellement besoin de moi, eh bien, je me déciderai sans doute. » On ne put la faire s'engager davantage. Félicité, avec sa continuelle fièvre, s'y épuisa. Tandis que le docteur affectait maintenant de dire qu'elle avait donné sa parole. Martine apporta une crème, sans songer à cacher sa joie. Prendre mademoiselle, en voilà une idée, pour que monsieur mourût de tristesse en restant tout seul. Et la fin du dîner fut ralentie ainsi par cet incident. On était encore au dessert lorsque 8h30 sonnèrent. Dès lors, Maxime s'inquiéta, piétina, voulut partir. À la gare où tous l'accompagnèrent, il embrassa une dernière fois sa sœur. « Souviens-toi !»« N'aie pas peur !» déclara Félicité. « Nous sommes là pour lui rappeler sa promesse !» Le docteur souriait, et tous trois, dès que le train se fut mis en branle, agitèrent leurs mouchoirs. Ce jour-là, quand ils eurent accompagné la grand-mère jusqu'à sa porte, le docteur Pascal et Clotilde rentrèrent doucement à la Souleyade et y passèrent une soirée délicieuse. Le malaise des semaines précédentes, l'antagonisme sourd qui les divisait, semblait s'en être allé. Jamais ils n'avaient éprouvé une pareille douceur à se sentir si unis, inséparables. En eux, il y avait comme un réveil de santé après une maladie, un espoir et une joie de vivre. Ils restèrent longtemps dans la nuit chaude, sous les platanes, à écouter le fin cristal de la fontaine. Et ils ne parlaient même pas. Ils goûtaient profondément le bonheur d'être ensemble. Chapitre 4. 8 jours plus tard, la maison était retombée au malaise. Pascal et Clotilde, de nouveau, restaient des après-midi entières à se bouder. Et il y avait des sautes continuelles d'humeur. Martine elle-même vivait irritée. Le ménage à trois devenait un enfer. Puis, brusquement, tout s'aggrava encore. Un capucin de grande sainteté, comme il en passe souvent dans les villes du Midi, était venu à Plassans faire une retraite. La chaire de Saint-Saturnin retentissait des éclats de sa voix. C'était une sorte d'apôtre, une éloquence populaire et enflammée, une parole fleurie, abondante en images. Et il prêchait sur le néant de la science moderne, dans une envolée mystique extraordinaire, niant la réalité de ce monde, ouvrant l'inconnu, le mystère de l'au-delà. Toutes les dévotes de la ville en étaient bouleversées. Dès le premier soir, comme Clotilde